soir. L'ancien président Tchadien Hissène Habré a été condamné hier lundi à la prison à vie par le tribunal spécial africain de Dakar. Cette juridiction africaine extraordinaire l'a reconnu coupable de crimes contre l'humanité, de torture et de viol lors de la répression menée lorsqu'il était à la tête de son pays entre 82 et 90. C'est la première fois au monde que des juridictions d'un pays jugent les chefs d'État d'un autre pays pour des crimes contre l'humanité. Quelle analyse faire de ce verdict? Pour en parler, je reçois professeur Tshibangu Kalala. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Vous êtes avocat et professeur de droit international à l'université de Kinshasa. Maître Chilka Bongo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes également avocat et président de l'Institut Congolais d'études et d'analyse stratégique. Dismas Kitenge, bonsoir. Dismas Kitenge. Voilà, il est en ligne, on va le recevoir tout à l'heure. Il est vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et aussi président du groupe Lotus, ONG de défense des droits de l'homme, basé à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Vous le savez, au Sénégal, le tribunal spécial africain de Dakar a tranché. Après 10 mois de procès, l'ancien président du Tchad, Hissène Habré, a été condamné hier lundi à la réclusion criminelle à perpétuité par une juridiction africaine extraordinaire. Les détails avec vous, Berry Franklin Luchaka.
25 ans après sa chute, l'ancien président tchadien jugé par le tribunal spécial africain de Dakar a été reconnu coupable des viols, mais également des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Ce qui était reconnu hier lundi, c'est la responsabilité de Hissène Habré, président du Tchad de 1982 à 1990, dans ce système qui s'en était pris d'abord aux opposants ou ceux soupçonnés de l'être, puis à plusieurs communautés du sud du pays, accusées de façon indiscriminée de soutenir de rébellions contre son régime. Sans négliger les détails, le juge a fait la description de tout un système lancé dès les semaines qui ont suivi la prise du pouvoir par la force de Hissène Habré en 1982. Le président de la cour n'a pris en compte aucune circonstance atténuante, notamment l'âge de l'accusé ou le fait qu'il est considéré comme un bon père de famille. La cour a considéré que les circonstances aggravantes devaient entraîner cette condamnation à la perpétuité. Ce procès de Hissène Habré marquera l'histoire de la justice internationale, à en croire les experts en la matière. C'est la première fois qu'un chef d'État est reconnu personnellement coupable des viols. C'est la première fois aussi qu'un ancien chef d'État africain est jugé en Afrique. Enfin, c'est la première fois au monde que des juridictions d'un pays jugent le chef d'État d'un autre pays pour des crimes contre l'humanité, estime-t-on dans les milieux de l'accusation. C'est le recours à la compétence universelle qui a permis la tenue de ce procès historique. Hissène Habré a donc été jugé au Sénégal alors qu'il est tchadien parce qu'une plainte avait été déposée au Sénégal, le pays où il réside depuis son exil en 1990.
Merci Berry Franklin Luchaka, professeur Tshibangu Kalala. Vous êtes avocat et professeur de droit international à l'université de Kinshasa. Professeur, est-ce que selon vous, ce procès est historique comme l'ont déclaré plusieurs autres experts?
Oui. Allez, donc d'abord, je tiens à vous présenter mes vifs remerciements pour m'avoir invité à cette émission. Je salue mes amis Dismas Kitenge, Maître Chilka Bongo. C'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ce studio pour parler de questions de justice. Et je salue également les braves auditeurs de Radio Capi. Eh bien, cette émission a un caractère pédagogique, surtout compte tenu de cet événement très important.
Exactement.
J'aimerais d'abord, avant de répondre clairement à votre question, dire un mot sur la justice. Bon. Qu'est-ce que c'est que la justice? Ce beau mot se trouve dans la devise de notre pays, c'est le premier mot, justice, paix, travail. Mais qu'est-ce que signifie la justice dans le contexte dont nous parlons? La justice, c'est donner à chacun ce qu'il mérite. Celui qui a tort, il faut lui donner tort. Celui qui a raison, il faut lui donner raison. Celui qui a droit à quelque chose, à un bien, à un avantage, il faut le lui donner. Si on donne tort à celui qui a raison et on donne raison à celui qui a tort, là, ça devient de l'injustice. Et donc, la justice, quand nous parlons dans notre pays ou sur le plan international, c'est donner à chacun ce qu'il mérite. Et on peut considérer que aujourd'hui, depuis hier, Hissène Habré a reçu ce qu'il mérite, donc la condamnation. Bon, est-ce qu'il a tort, il a raison? La justice nous dit qu'il a tort, il est coupable. Maintenant, l'aspect pédagogique dans cette affaire, Alain Young, c'est que c'est une leçon pour tous les dirigeants africains, les chefs d'État, qui sont actuellement en fonction, ou les futurs, tous ceux qui aspirent à devenir demain des chefs d'État, et dans le monde, et en particulier en Afrique. Et donc, quand on est au pouvoir, il ne faut pas vous comporter dans votre pays comme dans un pays conquis. Il faut respecter les droits et la dignité de vos concitoyens qui vous ont mis, qui vous ont donné cette haute charge. Vous êtes là, c'est pour protéger. Mais vous n'êtes pas là pour réprimer parce que vous avez l'armée, les services de sécurité, l'argent, vous êtes fort. Eh bien, vous marchez sur les droits de vos concitoyens. Donc, il faut respecter les hommes. Et donc, le caractère pédagogique dans cette affaire, et qu'il faut souligner, c'est que pour la première fois, et je suis tout à fait d'accord avec les autres analystes, que pour la première fois, on a un ancien chef d'État africain qui a quitté le pouvoir dans les conditions qu'on sait, en 1990. Moi, j'ai suivi la fuite de Hissène Habré en direct, ça me rappelle de vieux souvenirs. J'étais à Yaoundé dans un minibus en train d'aller à Bamenda avec un groupe d'avocats et nous suivions en direct la fuite de Hissène Habré en décembre 1990. Après, oui, il est déjà à la frontière, à Garoua ou Maroua, à la frontière, il vient de quitter N'Djamena. Et donc, j'ai de vieux souvenirs. Donc, c'est une bonne chose.
Et donc, c'est effectivement historique, professeur.
Oui, c'est historique. Donc, voilà, un chef d'État qui a régné dans son pays pendant près de 8 ans, qui a fait ce que tout le monde connaît, qui fouille, et qui emporte de l'argent frais en espèces dans les mallettes, et il va se réfugier en Côte d'Ivoire. Il ne pouvait pas imaginer que 25 ans après, 26 ans après, la justice va le rattraper, que son passé va le rattraper. Et donc c'est une très bonne chose, c'est une belle leçon que nous avons, que les peuples africains doivent apprendre, que les dirigeants africains, en fonction, ou les futurs présidents africains en fonction, doivent apprendre. Quand on est au pouvoir, il faut respecter les droits de vos concitoyens. Vous n'avez pas à vous comporter en Terminator, en écrasant tout le monde. Et attention, même 20 ans après, 25 ans après, la justice peut toujours vous rattraper.
Alors un autre aspect pédagogique, professeur, on l'a suivi dans l'élément que nous a présenté Berry Franklin Lutchaka. Il est dit que c'est le recours à la compétence universelle qui a permis la tenue de ce procès historique. En français facile, qu'est-ce que ça voudrait dire?
Ça veut dire ceci. Ça veut dire qu'on a constaté à un moment donné que des victimes de ce genre d'atrocité n'avaient aucun juge auquel ils pouvaient s'adresser pour demander justice. Et donc on a estimé, compétence universelle, signifie qu'un criminel, partout où il est, on peut l'arrêter et le juger dans n'importe quel pays du monde. Là où on l'arrête, eh bien, on met la main sur lui, on le déferle devant la justice du pays. Donc, un criminel de cette envergure ne doit pas trouver une place sur la terre des hommes où il peut se cacher et vivre en paix. On le traque partout. Et ce qui est arrivé avec le Sénégal, c'est le principe de droit international que nous enseignons dans toutes les écoles de droit, pour dire que lorsque vous avez un criminel sur votre territoire, vous avez des obligations. Quand il y a une expression latine qui dit « aut dedere, aut judicare ». Ou bien, vous l'arrêtez et vous le jugez vous-même, c'est ce qu'on a demandé au Sénégal. Hissène Habré est chez vous, au Sénégal, vous le jugez. Alors, si vous ne pouvez pas le juger, alors il faut l'extrader vers un pays où il pourra être jugé. Et ça, en espèce, c'était la Belgique qui demandait cela.
Et donc, professeur, peut-on dire en d'autres mots, avant que je ne donne la parole à Maître Kabongo, que le Sénégal, est-ce que le Sénégal aurait cédé à des pressions?
Non, le Sénégal, c'est un pays qui fonctionne relativement bien. C'est un État, le Sénégal. J'étais à Dakar il n'y a pas très longtemps. Quand vous êtes à Dakar, vous sentez une autre culture dans le pays. Et donc le Sénégal avait cette obligation du fait que il y avait un criminel, bon, présumé criminel, sur son territoire, qu'il y avait des Belges, des Tchadiens, qui étaient devenus des Belges, qui avaient porté des plaintes contre lui en Belgique. Et la Belgique demandait au Sénégal d'envoyer Senabré en Belgique. Le Sénégal a refusé. Il ne faut pas oublier aussi que la Belgique a saisi la Cour internationale de justice contre le Sénégal sur cette question-là. Et la Cour internationale de justice a donné injonction, s'est prononcée pour dire, vous, Sénégal, vous avez l'obligation soit de juger Hissène Habré chez vous, soit de l'extrader en Belgique pour qu'on le juge. Et puis, il y a l'Union africaine qui voulait écouter qu'on ne peut pas envoyer un chef d'État, un ancien chef d'État africain, qu'on le juge dans les pays des Blancs, il faut qu'on trouve quelque chose. Et finalement, on a trouvé cette solution spéciale en disant, ça sera un tribunal sénégalais, parce que ce n'est pas un tribunal international, hein, il faut corriger ce qu'on a dit dans les commentaires. C'est un tribunal sénégalais composé des juges sénégalais et des juges africains. Merci. Donc c'est une chambre spéciale au sein des juridictions sénégalaises. C'est une solution qu'on a trouvée pour marier la souveraineté du Sénégal, mais aussi donner quand même un aspect international pour que ça ne soit pas une vengeance, mais qu'on trouve quand même des juges internationaux pour assurer le caractère impartial et indépendant de ces juridictions.
Merci. Voilà. Maître Achille Kabongo, vous êtes avocat et président de l'Institut Congolais d'études et d'analyse stratégique.
Je m'appelle actuellement Institut Philippe Bioya.
Ah, voilà, ouais, ça c'est une nouveauté. Ouais. Alors maître, ce verdict, selon vous, est-ce qu'il est rationnel? Parce que certains experts estiment qu'on n'aurait pas tenu compte des circonstances atténuantes, notamment.
Non, selon l'avis des experts, je pense que dire qu'on n'aurait pas tenu compte des circonstances atténuantes, c'est aller un peu trop vite en besogne. Mais les circonstances qui ont entouré le déroulement, la préparation du procès laisse à désirer. Par exemple, tenez Alain Irung. Lorsque le parquet ou le procureur général près les chambres, près la cour d'assises des chambres africaines extraordinaires s'est rendu au Tchad pour pouvoir mener des enquêtes et voir les lieux où la fameuse DDS comment pratiquer ces tortures-là. L'on a trouvé par exemple que, à cause de l'urbanisation, M. Idriss Derby s'est arrangé pour faire nettoyer tous ces lieux-là.
Effacer les preuves.
On a effacé toutes les traces pratiquement. Ça suscitait l'énervement du procureur Mbakefol, qui a écrit aux autorités tchadiennes pour dire « Mais non, stoppez. À un certain moment, laissez-nous quand même avoir ne fût-ce que l'effectivité ou permettre au procès que nous allons organiser de restituer la réalité des faits. Mais à cause des contingences politiques, situationnelles, tout a été effacé pratiquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vais vous dire est que M. Hissène Habré lui-même avait porté plainte contre Madame Aminata Touré, qui était à l'époque ministre de la Justice et qui est devenue premier ministre du Sénégal. Pourquoi? Je vous précise, Madame Aminata Touré devrait avoir une procuration de Monsieur Sidiki Kaba, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, avant de signer le protocole d'accord de la création de la Cour d'assises des chambres africaines extraordinaires. Paraît-il que Madame Aminata Traoré n'avait pas avec elle la procuration de Monsieur Sidiki Kaba. Ce qui fait que quand il est allé signer, il avait signé sans procuration. Maître François Serre, qui défend Idriss Derby, a attaqué
Hissène Habré.
Hissène Habré, qui défend plutôt Hissène Habré, a attaqué Madame Aminata Touré en faux usage de faux devant le tribunal correctionnel de Dakar. Évoquant l'immunité des fonctions qu'exerçait à l'époque Madame Aminata Touré, le tribunal correctionnel de Dakar s'est déclaré incompétent. Il fallait que maintenant Hissène Habré, qui était auteur de cette plainte, puisse saisir la haute cour du Sénégal. Pourquoi Hissène Habré n'a pas saisi la haute cour du Sénégal? Point d'interrogation. Un autre couac, regardez. Monsieur Maître François Serre, qui est un grand avocat à l'instar de Maître Tshibangu Kalala que vous voyez ici, et le regretté qui devait peut-être être avec nous sur ce plateau, Kwebeliris, s'il était là, il vous dirait que l'arrêt qui a été rendu n'a été rendu que sur dispositif. On en reviendra. On accuse le Sénégal d'avoir violé le droit international. Pour dire que cet accord signé entre l'Union africaine et le Sénégal est un accord parfaitement illégal. Pourquoi ? On n'a jamais vu au monde une juridiction pénale être créée de cette manière-là. Il fallait nécessairement une intervention de l'ONU, selon Maître François Serre. Pourquoi ? L'Union africaine n'a pas qualité pour rendre la justice. Et l'Union africaine n'a pas qualité pour donner un mandat à un pays africain pour juger. Donc, il remet en cause les principes de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité, c'est-à-dire la création de cette cour d'assises des chambres africaines extraordinaires. Pourquoi ? Je vais vous lire par la décision numéro SCWCCJGUD06 du 18 novembre 2010. Écoutez.
Maître Achille, oui. Vous avez toujours la parole. Vous avez relevé un certain nombre de faiblesses qui entourent ce procès, mais quels pourraient en être les mérites s'il y en a selon vous?
Le mérite, c'est quoi? C'est seulement le signal fort qu'on a lancé. Parce que le Sénégal s'est entêté pour créer cette cour d'assises de chambres africaines extraordinaires, contrairement au principe du droit pénal international. C'est une entorse majeure. Si vous analysez juridiquement et scientifiquement, Maître François Serre a raison. Écoutez, l'on a saisi la haute cour de la CEDEAO. Vous comprenez? La cour de la CEDEAO a rendu un arrêt. Numéro SCWCCJ GUD /06/10 du 18 novembre 2010.
Qui dit quoi l'arrêt?
L'arrêt de la CEDAO dit ceci. Le mandat reçu par le Sénégal de l'Union africaine lui confère plutôt une mission de conception et de suggestion de toutes les modalités propres à poursuivre et à faire juger dans le cadre d'une stricte procédure spéciale ad hoc à caractère international, tel que pratiqué en droit international par toutes les nations civilisées.
Alors par là, Maître Achille, est-ce qu'on peut parler d'un procès politique?
Tout à fait. Un procès politique, je me justifie. Voilà qu'en 1990, après avoir été évincé du pouvoir, M. Hissène Habré se retrouve au Sénégal, a emporté dans la cale de son avion présidentiel, une somme de 28 millions de dollars. Il débarque avec au Sénégal. L'État tchadien n'a jamais introduit une quelconque action en réclamation
de ce montant.
De ce montant-là. Alain Gourc, c'est très grave. Ce montant-là, actuellement, il devait servir à indemniser qui? Les veuves et les orphelins.
Les victimes.
Les victimes, les veuves et les orphelins de tous ceux-là qui ont été, qui ont subi ces exactions-là. Et voilà que, lorsque l'on veut, l'État tchadien veut se constituer partie civile au procès, il est en porte-à-faux avec l'article 14 de l'acte constitutif de la Cour d'assises des chambres africaines qui dit ceci. Selon l'article 14, le statut des chambres africaines extraordinaires, le droit de se constituer partie civile pour les crimes relevants de la compétence des chambres africaines extraordinaires, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture, génocide, est accordé aux victimes de ces crimes. Un État ne saurait pas avoir la qualité de victime d'un acte de torture. Seules les personnes physiques victimes directes ou indirectes des crimes commis pendant le régime Hissène Habré peuvent se constituer partie civile.
Maître Achille, souffrez que je vous arrête à ce niveau. Je vous redonne la parole tout à l'heure. On me signale que Dismas Kitenge est en ligne. Dismas Kitenge, bonsoir, vous nous suivez?
Bonsoir.
Alors, Dismas Kitenge, vous êtes vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, également président du groupe Lotus, ONG de défense des droits de l'homme, basé à Kisangani. Peut-on dire que c'est une victoire pour les victimes, ce verdict?
c'est une grande victoire pour les victimes. Pourquoi? Puisque les victimes de ces crimes graves qui ont été commis par les régimes du Chénabré sont restées déterminées dans la quête de justice, dans la quête de vérité et dans la quête de la fin de l'impunité, non seulement au Tchad, mais sur le continent africain. Donc ces victimes-là ont cru à la justice, ont cru à leur combat. Et elles ont attendu 25 ans pour avoir ces verdicts aujourd'hui que nous saluons et que nous essayons de soutenir. C'est les victimes d'abord qui sont au centre de l'action. Et c'est sans ces victimes-là, sans leur détermination, ni l'Union africaine, ni le Sénégal n'auraient jamais permis que les chambres extraordinaires africaines soient mises en place et que nous ayons ce résultat-là que nous saluons. Donc c'est la détermination des victimes qui est d'abord à saluer, à encourager, et deuxièmement, c'est aussi la détermination d'organisations de défense des droits humains. Je vais citer ici quelques-unes d'entre elles, à commencer d'abord à saluer les combats menés par les organisations de défense des droits humains tchadiennes. Puisque c'est au Tchad que les crimes ont eu lieu. C'est les organisations de défense des droits humains qui ont été aux côtés des victimes tchadiennes pour réclamer ça, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les menaces, quelles que soient les morts. Parce qu'il faut dire que dans la société civile tchadienne, il y a eu des défenseurs qui ont été assassinés, qui ont été intimidés, qui ont été torturés pour ce combat-là. Mais voilà, aujourd'hui, nous avons le résultat. Mais il faut dire que cette société civile tchadienne a été rejointe à la société civile internationale, la FDH en tête, Human Rights Watch, international, toutes ces grandes organisations de défense des droits humains sont venues au secours des organisations de la société civile tchadienne aux côtés des victimes. Mais il faut saluer aussi les combats de défenseurs des droits humains qui sont entrés dans les secteurs politiques. Pourquoi ne pas mentionner Maître Sissi Kaba, aujourd'hui ministre de la Justice, garde des Sceaux, du Sénégal. Et pourquoi ne pas saluer aujourd'hui aussi l'action des hommes politiques qui ont, à un moment donné, sont allés à contre-courant même de ce que pensait la population, puisqu'à un moment donné, il faut les déguimater, les populations sénégalaises soutenaient le Sénégal. Mais il fallait une volonté politique du président Macky Sall pour qu'il croit à la justice, qu'il croit aux droits humains pour que nous ayons ces résultats. Voilà pourquoi nous saluons ces résultats, nous saluons la détermination des victimes. Et nous disons que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini puisqu'il y a de nouveaux défis qu'il faut relever et qu'il faut encourager les victimes à aller jusqu'au bout.
Alors, Dismas Kitenge, vous avez suivi Maître Achille Kabongo qui pense que c'est plutôt un procès politique.
Ce n'est pas du tout un procès politique. Les crimes ont été commis et les crimes sont portés à l'attention de juridiction, c'est un combat judiciaire, à mon sens. Mais un combat judiciaire qui a jugé un homme politique qui a commis des crimes qui devaient être poursuivis et réprimés par une juridiction. Donc ce n'est pas un procès politique, c'est tout simplement un procès, c'est un combat judiciaire, mais un procès qui a concerné un homme politique. Un homme politique qui a été couvert par plusieurs avantages, par une sorte d'immunité, de privilèges, de complicité de l'État où il était, et c'est comme ça que ça fait penser. Mais au fond, ce n'est pas un procès politique, c'est un procès comme tous les autres, puisque aujourd'hui, avec la jurisprudence, les principes de la Cour pénale internationale, qui dit que pour les crimes graves, il n'y a pas d'immunité. Même si vous êtes chef de l'État, si vous commettez ces crimes-là, vous devez être poursuivi. Nous avons déjà ce précédent. Nous avons ce principe qui a été levé par la Cour pénale internationale, mais qui a été repris. Et ici, très bien, vraiment, et heureusement par les chambres extraordinaires. Donc pour moi et pour les organisations de défense des droits humains, pour les victimes, il n'y a rien de politique là-dedans. Donc ce n'est que le droit. Et le droit qui a été appliqué dans toute sa rigueur et qui a reconnu un coupable. Et il y a eu aussi le moyen de sa défense. C'est Hissène Habré lui-même qui a choisi sa stratégie de défense. Mais pour moi, et pour beaucoup d'organisations de défense des droits humains, pour les victimes et pour la vérité de l'histoire, il n'y a rien de politique, c'est un procès, comme tous les autres procès. Mais un procès qui a concerné un homme politique qui était couvert de beaucoup d'immunité et qu'aujourd'hui, avec la justice internationale et avec ce principe que nous avons, il n'y a plus d'immunité. Et voilà, donc il a été démasqué et on a compris. Et c'est une leçon.
Merci.
Comme tantôt on le disait, une leçon pour tous les autres hommes politiques que pour les crimes internationaux ou les crimes graves, donc il n'y a pas d'immunité.
Merci.
Il n'y a pas d'immunité, voulais-je dire. Il n'y aura pas non plus d'impunité, on va les poursuivre. Et là, la compétence universelle, il faut préciser, la compétence universelle, c'est pour des crimes graves. Ce n'est pas pour un vol qualifié, ou donc, c'est pour des crimes graves, les crimes de sang,
les
crimes de masse, qui sont rendus aujourd'hui par les droits internationaux, des crimes qu'on doit imprescriptibles.
Merci, Dismas Kitenge. Professeur Tshibanguya, pour vous, cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
La condamnation de M. Abré est une très bonne chose pour tous les citoyens africains. D'ailleurs, encourager, car les Africains, tout comme les Occidentaux, ne pensaient jamais qu'il existerait un jour une juridiction d'Union africaine pouvait percer la sienne. Le fait d'avoir condamné M. Abré, c'est d'abord une interpellation pour les autres anciens et actuels chefs d'État. Deuxièmement, c'est une façon de montrer aux vies des populations africaines que nul n'est ici de la loi pour le simple fait d'avoir fait comparaître un chef d'État avec des simples citoyens. C'est pourquoi donc, en Afrique, un chef d'État est pour la plupart des fois considéré comme un déterrestre, celle qu'elle a déclaré une victime, c'est-à-dire qu'elle est mise en place pour juste la condamnation des anciens chefs d'État ou également pour l'actuel chef d'État en exercice.
Voilà, veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité de cet élément. Professeur Tshibangu, j'ajoute deux réactions. Gerson Kobisi qui dit, tenant compte de son âge, la prison est un salaire et un repos pour Hissène Abré, car il est déjà vieux, il ne vivra plus longtemps. Pour le peuple tchadien, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, ils ne gagneront rien du tout. Il y a Fikiri Tshomba de Goma qui dit, bravo à la justice sénégalaise pour ce jugement rendu, même s'il est encore partiel à ce stade, car à mon avis, le jugement devrait aller plus loin, condamnant d'autres personnes qui sont libres aujourd'hui pendant qu'ils ont joué un rôle clé dans l'oppression de 82 qui a vu le peuple tchadien être massacré. Professeur Tshibangu.
Oui, Alain Irung. C'est un grand jour et un beau jour pour l'Afrique, pour les peuples africains. La condamnation de Hissène Abré est une très très bonne chose. C'est une leçon historique pour les peuples africains. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé avec Hissène Abré? Vous vous imaginez un chef de l'État en fonction, un président de la République en fonction, qui se permet de se rabaisser au niveau d'un délinquant, d'un voyou, pour violer une femme. Vous vous imaginez? Une femme prisonnière. Entre autres, il est condamné pour ça. Cette femme est venue témoigner devant le tribunal.
Et à visage découvert.
À visage découvert. Elle raconte dans quelles conditions Hissène Abré, chef de l'État, l'a violée à plusieurs reprises. Mais ce type devait être sanctionné sévèrement, puni sévèrement. Un chef d'État en fonction qui se permet de poser un tel acte, vous vous imaginez? Donc c'est un grand jour et c'est une leçon, comme je l'ai dit, et je suis d'accord avec les auditeurs qui viennent d'intervenir, une leçon pour les chefs d'État qui sont en fonction aujourd'hui dans le pays et pour ceux qui vont venir demain à la tête des États africains. Messieurs, si vous êtes un président de la République, vous rendez service à votre communauté. La politique, c'est un service qu'on rend à la communauté. Et donc, vous ne pouvez pas être là, commencer à organiser des tortures de la population pour des gens qui ne pensent pas comme vous. Vous êtes président de la République, mais vous êtes président de la République des concitoyens qui sont d'accord avec vous, qui dansent pour vous, qui vous applaudissent, mais aussi président de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Donc, il faut protéger tout le monde. Et donc, c'est une leçon importante. Un chef d'État ne peut pas se comporter dans son pays comme sur un territoire conquis. Et c'est une leçon très importante qu'il faut retenir parce que la justice, messieurs, la justice peut vous rattraper même 50 ans après.
Alors, professeur, vous êtes avocat. Un mot sur la stratégie choisie par Hissène Abré, celle du silence.
Oui, c'est vrai. C'est une stratégie judiciaire. Hein. Moi-même, je l'ai appliqué dans mon cas quand j'étais en prison à Makala. J'ai dit au procureur de la République que je ne répondrai plus à vos questions parce que vous me faites perdre du temps.
Visiblement, il n'a pas à payer.
Donc, j'ai dit que je ne passerai plus au parquet général de la République pour répondre aux questions parce que le dossier est vide, vous me faites perdre du temps. Et puis, on ne m'a plus posé des questions. Donc, la stratégie de silence, c'est prévu. tout prévenu a le droit au silence. Il peut refuser de répondre aux questions. Parce que souvent.
Est-ce qu'elle n'est pas contre-productive?
Non, non, mais ça dépend. Parce que souvent.
Dans le cas du Tenabré.
Dans le système américain, il y a ce qu'on appelle un avertissement Miranda. C'est-à-dire, aux États-Unis, par exemple, quand on arrête quelqu'un par la police, on lui dit, monsieur, vous avez le droit au silence.
De garder silence.
Parce que
vous direz.
Tout ce que vous pouvez dire
peut se retenir contre vous.
Peut se retourner contre vous. Donc, c'est à qui Hissène Habré a choisi cette stratégie de défense. Eh bien, visiblement, ça n'a pas marché parce qu'il a été condamné à perpétuité.
Maître Achille, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est Alain Bolodjoa depuis Kinshasa. Il convient de reconnaître qu'effectivement, le verdict vient de rappeler aux dirigeants du monde qu'ils ne sont nullement exemptés de peine. À cet effet, ils sont astreints de se conformer aux principes démocratiques en évitant par la même occasion de se livrer au déviationnisme et surtout à l'ivrognerie du pouvoir. Il aurait été plus intéressant si cela se faisait aussi pour les dirigeants occidentaux qui s'évertuent de façonner des dictateurs dont le monde est en fin de compte le massacre publiquement comme des animaux sauvages et mettant ainsi en mal la fibre sociale de nos pays du Sud.
J'ajoute, Maître Achille, cette réaction de Christian qui nous écrit de Kipushi. Il est temps de ramener tous les Africains qui traînent devant la CPI. Nous voulons leur acquittement ou leur inculpation. Maître Achille.
Oui, je remercie Alain Boudjo et Christian. Le signal est fort. Nous tous, nous l'admettons. La condamnation de Hissène Habré va changer beaucoup de choses en Afrique. C'est la première fois qu'un pays africain a jugé un dictateur d'un autre pays africain. Ça n'avait jamais existé auparavant. Et le Sénégal n'a fait qu'ouvrir la porte. Et maintenant, nous nous retournons vers la République centrafricaine. Hein. Il faut que la République centrafricaine organise aussi la cour d'assises, des chambres extraordinaires pour juger un peu toutes les crimes.
Donc il faudrait une pérennisation de cette juridiction.
Écoutez, c'est une boule de neige. Elle va défiler en Afrique subsaharienne. Et nous remercions le Sénégal de l'avoir initié tout simplement. Mais j'ai un bémol que j'aimerais ajouter parce qu'à l'Institut congolais, nous, on a l'habitude de faire un peu mal. Alain Irung, quelle est la hauteur de l'indemnisation des victimes? Je ne suis pas d'accord avec le représentant de Gismas Kitenge. J'aimerais dire Gismas Kitenge. Bien sûr, vous criez, c'est une victoire. Mais quelle est la hauteur de l'indemnisation pour les victimes?
Est-ce que la victoire n'est pas morale, maître Achille?
Écoutez, elle est tout simplement
au-delà
morale.
De tout ce qui est pécunier.
Elle est médiatique. Je vais vous dire ceci. Le défunt éminent confrère Jacques Vergès dénonçait la mafia de ces juridictions internationales sous l'égide de l'ONU, qui drainent des millions, qui s'occupent des criminels et qui négligent les victimes. Imaginez-vous, dans les juridictions pénales internationales, un avocat est payé à $350 de l'heure. Vous comprenez? Et Esther Majuawayo, une Rwandaise qui a écrit un livre intitulé « Du sang sur Liliane », a témoigné en disant que lorsque les criminels qui ont été coupables de viol et qui sont atteints de sida ont violé des femmes en masse et qu'elles ont transmis le virus de sida à ces femmes-là, au niveau des juridictions internationales, lorsque ces criminels sont arrêtés, on leur accorde la trithérapie Alain Irung. On les maintient en vie pour que ces criminels soient jugés. Et pendant la trop longue séance du procès pénal, les victimes ne bénéficient pas de la même trithérapie. Et comme il y a la trop longue séance de procédure judiciaire, lorsqu'il faut arriver à l'audience de plaidoirie, toutes les victimes sont décédées. Il n'y a plus de victimes pour témoigner. C'est très grave. Nous continuons en disant ceci. Pour la cour d'assises des chambres extraordinaires de l'Union africaine qui sont créées au sein des juridictions sénégalaises, le budget a été arrêté à 8,5 millions de dollars. Je pense que les États-Unis d'Amérique, si mes documents que j'ai ici sont corrects, avaient promis 1 million de dollars pour qu'ils donnent. D'autres pays ont promis, à l'instar de la Belgique, du Pays-Bas, de l'Union africaine, l'Allemagne, la France, Luxembourg, mais j'ai lu dernièrement un rapport de Human Rights Watch dressé par M. Reed Brody qui nous renseigne que cet argent n'existe plus. Alors, nous crions à cette victoire-là, pendant que l'indemnisation des victimes n'est pas faite correctement à Alain Irung. 28 millions de dollars gardés au Sénégal et blanchis dans les institutions bancaires sénégalaises pendant 26 ans. Vous savez que Abdoulaye Wade nous a fait beaucoup traîner, il ne voulait pas organiser ce procès de Hissène Habré. Mais en fait, quand vous criez victoire, il y a les victimes. Si je trouve bien, il y a eu au moins 200 000 victimes. Il n'y en a que 1016 qui ont été répertoriées. Et les documents que nous détenons ici, c'est parce qu'il y a Ismaël Gouingouin qui cachait dans son jardin certains des documents là. Mais tous les sites où existait la DDS ont été rasés. Si vous allez au Tchad aujourd'hui, en N'Djamena, vous trouvez de belles bâtisses. Toutes les preuves ont été effacées.
Et donc pour vous mettre, il ne faut pas crier victoire.
Non mais il ne faut pas crier victoire. Bon, écoutez, le signal est fort, mais je veux dire que la façon dont le procès s'est tenu, il y a eu tout simplement un tout petit peu de se tirer par les cheveux. C'est un peu de bricolage juridique.
Merci.
C'est un peu d'arnaque aussi là-dedans.
Merci. Bismas Kitenge, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
Sako dit à vous nous désirer depuis Lubumbashi. Je pense que la condamnation de M. Hissène Habré par une justice africaine est un grave pas, car c'est l'Afrique qui juge un Africain. Mais cette justice est à double vitesse, parce que M. Hissène Habré, quand il était au pouvoir, il avait des alliés qui le soutenaient. C'est le cas notamment de la France, des États-Unis et d'autres grandes puissances qui, à mon avis, ont aussi une grande part de responsabilité et qui méritent d'être aussi jugés. Malheureusement, les chambres extraordinaires africaines n'ont pas travaillé aussi sur cet aspect.
Dismas Kitenge, qu'est-ce que vous lui répondez?
Oui, on comprend très bien qu'il y a eu des complices. On comprend très bien qu'il y a encore d'autres complices qui ne sont pas seulement en France, aux États-Unis, mais qui sont en Afrique et qui sont au Tchad. Et nous disons pour nous, ce procès, c'est une victoire. Comme je le disais, pourquoi c'est une victoire? Une victoire dans les combats. Ce n'est pas la fin du combat pour les victimes. Ce n'est pas la fin du combat pour la justice, pour les organisations de défense des droits humains. Nous disons que c'est une victoire, mais nous devons conquérir, nous devons gagner d'autres victoires. D'autres victoires qui vont nous amener, qui vont nous pousser à amener devant les juridictions extraordinaires africaines d'autres complices de ces crimes-là, les autorités qui sont au Tchad. Nous sommes conscients de ces difficultés-là. Nous sommes conscients de ce qui attend. Mais on salue déjà cette victoire, puisque c'est un encouragement qui va nous amener plus loin. Mais aussi, comme je le disais, c'est les victimes qui sont au cœur de ces résultats-là. Il faut le reconnaître. Pourquoi nous le reconnaissons? Parce qu'elles ont été déterminantes. C'est elles qui ont réclamé, c'est elles qui ont témoigné, c'est elles qui ont dit qu'il faut que l'Union africaine agisse, il faut que le Sénégal agisse, il faut que la justice civile africaine vienne le soutenir. Et aujourd'hui, on a ces résultats. Mais on ne peut pas se contenter seulement de ces résultats. Autre chose, quand on a parlé de réparation. Mais les réparations ont plusieurs formes en droit international, en particulier en droit international des droits de l'homme. Il n'y a pas que les réparations pécuniaires. Il y a aussi les réparations d'ordre moral. Il y a des réparations d'ordre politique. Il y a des réparations qui peuvent prendre des formes aujourd'hui de monuments, de reconnaissance des victimes. Donc il y a plusieurs mécanismes que déjà le droit de la Cour pénale internationale applique et le droit de la Cour a emprunté ça dans le mécanisme des droits interaméricains des droits de l'homme. Et les chambres africaines extraordinaires tiennent compte de ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de victimes, mais ce n'est pas toutes les victimes qui ont participé aux procédures judiciaires de ces chambres-là extraordinaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de complices. Mais cette décision doit engendrer d'autres formes de poursuites, aussi bien au Tchad que dans d'autres pays africains, qui doivent s'approprier ce combat pour la justice. C'est pour cela que nous disons, et j'étais heureux d'entendre, de la part d'un des intervenants, que ça doit avoir un impact, ça a un effet pédagogique. Mais l'effet pédagogique, c'est quoi? C'est que c'est l'appropriation de ce combat, aussi bien par d'autres pays, et aussi par l'intensification de ce mécanisme-là, et aussi par l'encouragement des victimes à saisir toutes les opportunités de droit international, de droit africain, de droit de l'homme qui existent, et de juridiction pour voir comment on peut encore mettre mettre à l'accusation d'autres complices de ces crimes d'Hissène Habré, puisqu'on sait que Hissène Habré n'a pas été le seul dans son régime, même s'il a été le moteur, le cerveau moteur, mais il y a eu quand même d'autres cerveaux moteurs, il y a eu d'autres complices et d'autres exécutants qui sont même aujourd'hui dans le régime du Tchad. Mais je crois que ça va être un effet et les victimes continueront à déranger, à réclamer cette justice, à bousculer et à saisir tous les mécanismes. Et les réparations, il faut dire que il y a des besoins des victimes qu'il faut identifier. Il y a d'autres victimes qui manquent comme attente que la répression. Il y a d'autres, ce n'est pas toutes les victimes qui veulent la réparation. Et même la réparation, comme je disais, doit avoir plusieurs formes. Merci. Et les lois internationales des droits de l'homme est assez claire déjà à ce niveau.
Merci, Dismas Kitenge. Professeur Chibangu, il y a Luc Malembe de Bounia qui dit, moi je souhaite de tous mes voeux que ces chambres africaines soient pérennisées, que les États trouvent un moyen de financer de manière continue une cour africaine chargée de juger les Africains selon nos coutumes et nos réalités, comme ça a été le cas avec Hissène Habré.
Oui, c'est exact. Même ici, dans notre pays, il y avait déjà une tentative qui était lancée ici par l'ancien ministre de la Justice, professeur Luzolo, qui était présenté même un projet où il disait bon, il faut créer des chambres spéciales au sein des juridictions congolaises pour traiter cette question de cette crise. Mais ça, c'est la politique de chaque pays. Il n'y a pas beaucoup de leçons à
dire. Sur le principe, faut-il pérenniser ce genre de structure?
Oui, mais comment on va le pérenniser? Tout dépend. Écoutez, ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de crime. Hein. Il faut pas exagérer.
Il ne faut pas rêver.
Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ce type de crime. Hein. Ça concerne combien de gens? Peut-être 3 ou 4 personnes. Ce n'est pas tous les jours. Au Tchad, parce que je n'ai pas voulu rentrer dans tous ces débats, même l'actuel président tchadien,
Idriss
Déby, il était chef d'état-major de l'armée d'Hissène Habré quand tout ceci se passait. Rappelez-vous, nous sommes à l'époque de la guerre froide. Hissène Habré était dans le camp occidental, qui avait toutes ses complicités, tous ses silences, tous ses chemins d'hypocrisie, etc. On le sait très bien. Et même Idriss Déby avait à un moment dit, moi je viendrai témoigner. Il ne faut pas qu'on dise que j'étais complice d'Hissène Habré. Mais quand on a cherché à le joindre pour qu'il témoigne, bon, on a trouvé qu'il n'avançait plus. Donc, on ne va pas rentrer dans tout ça. Ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est qu'il faut, pour éviter tout ceci, que nos dirigeants, les chefs d'État, en fonction, et les futurs chefs d'État qui vont venir...
Et là, c'est déjà en guise de conclusion, parce qu'il reste seulement 3 minutes.
Oui. Ce procès, ce jugement qu'on vient de rendre, pour moi, c'est une belle leçon, une grande leçon. C'est un grand jour pour l'Afrique, pour les peuples africains qui vivent sous des dictatures, voyez-vous. Et donc, il faut répéter encore une fois pour dire qu'un chef de l'État, il est là pour rendre service à son pays. Il ne doit pas se comporter comme si ce pays est devenu un territoire conquis. Il faut respecter les droits de l'homme, les libertés fondamentales. Il faut respecter les droits et les dignités de vos concitoyens. Il ne faut pas organiser un système de torture, d'arrestation et de détention arbitraire. Il ne faut pas chercher à régner. Et c'est ce qu'on a reproché justement à Hissène Habré. C'est ce qui lui coûte aujourd'hui une condamnation. Ça, de régner par la violence, par la force. C'est pas, de marcher sur la volonté de votre peuple. Il faut éviter cela parce
Merci.
Que un jour, la justice va vous rattraper.
Maître Achille Kabongo, ce procès, ce verdict, ouvre-t-il une nouvelle ère pour la justice africaine, la justice internationale,
En guise de conclusion, ça ouvre une nouvelle ère. Je pense que les choses ne seront plus les mêmes en Afrique. Et je pense que les Africains doivent être contents. Le professeur l'a souligné, c'est un grand jour. Ça aura un effet de boule de neige, mais c'est aux États africains de faire en sorte que cela puisse être concret. Et ici, j'aimerais souligner une chose, qu'il y a d'autres personnes qui devaient être entendues devant le tribunal, la cour d'assises des chambres africaines extraordinaires, qui ont fait partie de cette DDS que l'État tchadien n'a pas voulu livrer. C'est par exemple Mahamat Djibril, alias El Djonto.
Et Salé Younes,
Zakaria Berdey.
Donc il faudrait aller plus loin que ça.
Merci.
Dismas Kitenge, un mot pour conclure.
c'est une décision historique par son exemplarité, c'est une décision historique par la détermination des victimes, c'est une décision historique par son appropriation par l'Union africaine. C'est pour dire que les victimes doivent être au cœur de tout, et c'est les victimes qui actionnent tout, et la société civile doit encourager les victimes.
Merci.
Et le gouvernement doit rejoindre les victimes. Ce n'est pas seulement l'affaire des chefs d'État, c'est l'affaire d'abord des victimes qui ont souffert.
Merci Dismas Kitenge, c'est par vous que nous terminons cette émission. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.